la désinformation climatique. Pour mes enfants, ils en sont conscients de tout ça. Ma fille aussi, on en parle. Et moi, je dis toujours, moi, je vais fermer le portail de ma vie et ça va aller. Vous, ça va être un peu plus compliqué. Hein.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, le 247e consacré au problème du réchauffement climatique. Et malgré notre obstination, il faut regarder les choses en face, le problème n'est toujours pas résolu. Car certains, dans l'espace médiatique, qu'ils soient payés par des grandes firmes pétrolières ou qu'ils le fassent pour des raisons politiciennes, s'appliquent à entretenir le doute. Bon, ok, ça se réchauffe, mais est-ce qu'on est vraiment sûr à 100% que le réchauffement est le fait de l'homme, hein, ma bonne dame? On est sûr de rien aujourd'hui. Voici, résumé en une remarque, ce qu'on entend à longueur de journée sur une chaîne info qui vient justement d'être sanctionné par l'ARCOM pour désinformation climatique et où on entend des réflexions frappées au coin du bon sens comme
« Il est là !» Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines.
Eh oui, bon sens, car oui, François Gémen vous le confirmera, le fait qu'il puisse faire moins 3 degrés dans les Yvelines un 28 novembre apporte clairement la preuve que le réchauffement climatique est un canular des Chinois. Bref, cet après-midi, on a choisi de zoomer sur le phénomène de la désinformation climatique qui sévit dans l'espace médiatique, à la télé, mais aussi bien sûr en premier lieu sur les réseaux sociaux. Phénomène insidieux qui fonctionne avec la complicité de certains médias, mais aussi de certains journalistes dépourvus d'éthique qui acceptent d'être achetés par les lobbies, je pense notamment à Quentin Lui, qui devra répondre de son dernier aller-retour à Nice en avion vendredi dernier, aux frais du salon de l'IA de Sophie Antipolis, qui, moyennant donc un aller-retour sur Air France avec accès au salon business, avait acheté son silence sur les ravages environnementaux de l'intelligence artificielle. Tout ça n'est pas joli joli. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour Eva Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes la cofondatrice et secrétaire générale de Cota Climat, une association qui œuvre pour un meilleur traitement médiatique des enjeux écologiques. Vous revenez de la COP30 de Belém où une déclaration sur l'intégrité de l'information sur le changement climatique a été signée. Il y a quelques jours, c'est donc la chaîne CNews qui a été condamnée à 20 000 euros d'amende pour désinformation climatique après un signalement de votre part auprès de l'ARCOM. Ensemble, on va essayer de comprendre tout ce que recouvre ce terme de désinformation climatique. Juste le temps de vous présenter mes journalistes, les incorruptibles et ceux qui, moyennant un ou deux pambagnas, sont prêts à faire des concessions avec les faits scientifiques. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Je vais vous poursuivre un jour.
Oui, face à vous, Eva, il est clairement le maillon faible de l'équipe, celui qui serait, par exemple, tout à fait capable de nier l'impact de l'industrie automobile sur l'augmentation des émissions de CO2 si jamais un constructeur décidait de lui offrir ce kart dont il rêve pour Noël. Quentin, chaque matin.
Ça, c'est une tondeuse.
Non, c'est pas vrai, c'est une vidéo avec un kart.
Ah ouais, ouais. Vous avez bien fait de perdre votre temps à chercher celle-là, je pense vraiment.
Chaque matin, Quentin, vous partez à la rencontre des passants parisiens ou niçois, quand vous avez pris un pot de vin, pour les faire réagir à notre thème du jour. Alors, la désinformation climatique, ils ont conscience d'en être victimes, les gens?
J'ai surtout demandé comment on s'informe aujourd'hui. Entre idées reçues, légendes urbaines, tri sélectif, culpabilité et lobby, je suis allé soumettre notre notion du jour pour un micro-trottoir, une fois de plus, complètement à la rue, Mathieu.
À vos côtés, Eva Morel, voilà une journaliste qui, elle, n'est pas aveugle devant le phénomène du réchauffement climatique grâce à ses nouvelles lunettes.
Il n'est toujours pas arrivé.
Positionné. Vous postillonnez sur le micro France Inter, vous savez combien ça vaut?
Désolé,
vous savez comment ça va un micro comme ça?
Désolé pour ceux qui y passeront après.
Bon, ouais, ouais, ça, on les embrasse. Certainement Manu Payette. Bisous Manu. Manon, chaque après-midi, ça vaut pas ton rougail saucisse cela dit. Ouais. Manon, chaque après-midi, vous apportez une pièce jointe à l'édifice éditorial de cette émission.
Et aujourd'hui, je vous parle d'une personne, d'un militant qui participe justement à bien informer sur l'écologie et le réchauffement climatique.
Ah, un ami à nous?
Ami, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, mais en tout cas, il a fait partie de la maison à un moment. Voilà,
Là, donc un ami. La désinformation climatique a ses prophètes. Vers 16h30, nous partirons à la découverte des plus belles perles du climato-scepticisme qui, vous verrez, ne sont pas le monopole de Donald Trump et Claude Allègre. Ça sera le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, l'immense François Rollin viendra nous livrer ses impressions sur la semaine écoulée dans Zoom Zoom Zen. Après 17h, on basculera évidemment en mode Zoom Zoom Back, direction aujourd'hui 1989, l'année de la première tournée des Enfoirés, 20 ans pile avant la fameuse anecdote de l'iPad de Thomas Pesquet que Quentin vous racontera certainement si on a le temps. Mais d'abord, cet après-midi, on va donc se pencher sur la question de la désinformation climatique. Alors déjà, Eva Morel, mercredi, l'Assemblée nationale a adopté une résolution européenne visant à lutter contre cette désinformation climatique. Est-ce que la désinformation climatique entre aujourd'hui dans le droit, on peut le dire ?
Une résolution européenne, c'est plutôt une manifestation symbolique de la volonté du Parlement d'agir sur le sujet. Donc la réponse par rapport à cette résolution, c'est non. En revanche, vous avez introduit sur la jurisprudence par rapport à CNews.
Ça
rentre dans le droit. Et ça, pour nous, c'est vraiment une énorme victoire parce que c'est la première fois qu'il y a une sanction dans le monde sur un média pour désinformation climatique.
Donc ça pourrait faire boule de neige et plusieurs médias pourraient être sanctionnés ou un même média plusieurs fois de suite pour désinformation climatique répétée.
Oui, tout à fait. En fait, nous, on vise deux choses. D'une part, à admettre que le consensus scientifique sur le changement climatique, c'est un fait et pas une opinion, et que contredire ce fait sans contradiction, c'est un problème, et à créer un système de responsabilisation des médias qui désinforment. Aujourd'hui, CNews a été sanctionné à hauteur de 20 000 euros, ce qui est ridicule par rapport aux menants dont ils dispensent. Mmh. En revanche, ce serait possible d'augmenter cette sanction. Et donc, les prochaines fois, il y en a déjà des saisines
qui sont
en cours
d'instruction. Voilà. Ça serait plus cher.
Et c'est en cours de récidive, puisqu'il ne se calme pas malheureusement avec
cette
première sanction.
Bon, je regardais CNews hier soir, ça ne m'a pas choqué, moi, pourtant. Face à vous, Eva, même si le sujet de la désinformation climatique le passionne, il en parlait d'ailleurs déjà à l'hôtesse de Delta Airlines pendant qu'elle lui servait son champagne lors de son aller-retour à Vegas l'année dernière. Malgré donc cette passion pour notre sujet du jour, Cyril a surtout hâte d'être samedi soir, quand il entrera sur le dance floor du Why Not de Ponto Combo et que le DJ mettra.
Mais d'où ça sort ?
C'est déjà numéro 1 sur Spotify.
Ah,
c'est
votre algorithme qui est foiré. Cyril, racontez-nous la désinformation climatique, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez, vous allumez votre télé et vous tombez sur ça.
Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement.
scientifiquement. L'économiste Philippe Erlin, par ailleurs soutien de la campagne d'Éric Zemmour, c'était le 8 août 2023, sur CNews, une séquence qui a coûté 20 000 euros à la chaîne Info, le tout premier média condamné pour désinformation climatique. Chapeau à lui. Aidé comme ça, sur les réseaux sociaux, il y en a par paquets. Mais les racines de cette désinformation sont bien plus anciennes que CNews, TikTok et autres YouTube. Elles sont aussi plus organisées qu'on ne l'imagine.
Alors de quand ça date ?
Eh bien, dès la fin des années 70, les compagnies pétrolières se mettent en branle. En 1977, les ingénieurs d'Exxon alertent leur direction. Oui, le CO2 va réchauffer la planète. Et oui, cela va devenir un sujet politique majeur. Mais ça ne les arrange pas que ça se sache. Alors, elles décident de semer le doute et de cacher la réalité. Enterrer les rapports et vas-y que l'on fait des campagnes pour minimiser la science et qu'on met des soi-disant experts climato-sceptiques sur tous les plateaux de télé. Dans les années 90, la désinformation change d'échelle. Elle devient même une véritable industrie. Tribunes, faux débats scientifiques, conférences sponsorisées. L'objectif n'est pas de convaincre que le climat ne change pas, mais de répéter en boucle que le consensus n'existe pas. C'est l'époque des marchands du doute. Marchands qui ont depuis bien prospéré, et c'est justement le début de notre histoire.
Merci Cyril. Eva Morel, c'est donc votre association qui a signalé les propos qu'on a entendus au début de la chronique de Cyril à l'ARCOM, des propos diffusés sur CNews sans contradiction. Sur quelle base vous avez pu interpeller le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM ?
Sur la base de la rigueur et de l'honnêteté de l'information dans les médias français, c'est quelque chose qui est encadré, toutes thématiques confondues. Mais c'est la première fois qu'une organisation, de manière répétée, portait des plaintes sur la base de la minimisation du consensus scientifique sur le climat. Et ça a pris quand même 3 ans à ce que l'ARCOM évolue dans sa pratique décisionnelle du sujet. Ils ont délibéré cet été du fait que le consensus scientifique sur le climat relevait du fait, sans équivoque. Donc cet été,
c'est un peu lent à votre goût.
Par rapport à l'histoire qu'on vient d'entendre sur la confection du doute sur le climat, ça a pris du temps. Et il faut savoir que quand on parle aux autres autorités de régulation au niveau européen, c'est la seule à avoir agi sur le sujet.
Mais vu qu'il y a eu une condamnation, là, potentiellement, ça pourrait être plus rapide, du coup.
Les prochaines.
On l'espère. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes d'intérêt qui utilisent l'ARCOM pour saisir sur plein de sujets. Et la durée moyenne des saisines d'instruction, c'est à peu près 6 à 8 mois. Donc, à chaque fois, ça prend du temps. Et malheureusement, ce qu'on constate, nous, en comptabilisant le nombre de cas de désinformation climatique dans les médias français, c'est qu'il y en a énormément et que du coup, à chaque fois, si ça prend 6 à 8 mois, on n'est pas sorti de l'auberge.
On se réjouit évidemment que votre démarche ait porté ses fruits, mais est-ce que ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau, en l'occurrence contre une chaîne comme CNews, qui dispose de moyens, on ne va pas dire illimités, mais très importants, 20 000 euros pour eux, c'est comme 2 euros pour vous et moi, donc est-ce qu'il va falloir multiplier les procédures ? On sait que Vincent Bolloré est coutumier du fait de faire des procédures à n'en pas finir et il n'a pas peur d'aller en justice pour faire traîner les choses. Est-ce que ce n'est pas décourageant quelque part ? Parce que, est-ce que ça va vraiment faire changer leur discours ?
Ouais, je pense que déjà c'est normal de jouer avec les règles du jeu et l'état de droit. Je pense que c'est quelque chose auquel on est très attaché. 20 000 euros, c'est le début, c'est pas du tout la fin. Y a plein d'autres saisines qui sont en attente et donc on pense que la prochaine ça pourrait être davantage. Et je pense que c'est important de dire que les sanctions financières, ça peut aboutir dans des cas extrêmes à la suppression de la diffusion sur des fréquences TNT, comme ça s'est produit avec
C8.
Et donc non, c'est pas du tout inutile selon nous.
Oui, parce que symboliquement, c'est fort, une chaîne condamnée pour désinformation climatique, ça c'est unique au monde.
C'est unique au monde. Et d'ailleurs, quand on était à la COP30, pour la première fois, le sujet de la désinformation climatique a été étudié. Et l'un des gros sujets, c'est d'obtenir des États des engagements juridiques et des politiques publiques qui permettent de lutter contre le phénomène. Et l'exemple français, qui d'ailleurs est survenu à un moment assez opportun, parce que juste avant la COP30, ça a servi d'exemple. L'ambassadeur climat, la ministre de la France de la transition écologique, en a parlé pour inspirer d'autres États. Et il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans d'autres États en s'inspirant de cette bonne pratique.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Trois jours maintenant que dans l'Open Space, notre rédacteur en chef Cyril Lacarre n'a pas ôté son bonnet de laine blanc. De quoi douter du réchauffement climatique ? Non, pas de conclusion hâtive, d'autant qu'on zoome cet après-midi sur la désinformation climatique qui sévit. Elle est pensée, elle est organisée. On en parle avec celle qui a fait condamner CNews à ce sujet, la secrétaire générale de l'association Cota Climat, Eva Morel. Alors Eva, CNews a essayé de se défendre auprès du Conseil d'État et a fait valoir la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est pas une opinion en fait de dire que le dérèglement climatique est même pas un mensonge, mais en tout cas, qui n'aurait pas de preuve de l'impact de l'homme sur ce réchauffement climatique.
Il y a une idée reçue selon laquelle en démocratie il y aurait une liberté totale, qui est une idée reçue qui est complètement fausse. Il y a des règles et des devoirs pour les médias, mais aussi pour les citoyens. On n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de nier l'existence de la Shoah.
Le racisme aussi n'est pas une opinion, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Donc il y a énormément de limites qui existent déjà. Et en fait, le fait de diffuser de la fausse information dans les médias, c'est quelque chose qui est encadré. En revanche, ça n'avait jamais été appliqué sur le climat, et donc c'est là que le bât blesse, c'est que des médias qui en font des sujets idéologiques, il y a des médias aujourd'hui qui sont catégorisés, l'audiovisuel public les a catégorisés d'extrême droite carrément récemment, ils en font un objet anti-progressisme, et comme par exemple les questions de genre, les questions de climat sont très ciblées, et donc ils se sont servis de cette rhétorique selon laquelle contredire le consensus scientifique sur le climat serait contraire à la liberté d'expression pour aller à l'encontre de ce que fait l'ARCOM sur le sujet. Faut savoir qu'ils le font sur toutes les sanctions qu'ils reçoivent, donc c'est pas du tout une exception là-dessus. En revanche, l'argument, il porte beaucoup, nous on est beaucoup attaqués là-dessus, à l'échelle internationale, on sait que les arguments de Trump utilisent la même rhétorique, qui est de dire que si on ne peut plus dire n'importe quoi sur le climat, alors on n'est plus en démocratie. C'est complètement faux, c'est précisément l'exercice de la démocratie que d'agir dans le cadre de l'état de droit.
Vous avez fait condamner CNews sur cette notion de désinformation climatique, mais il y a la désinformation tout court aussi. Le Conseil d'État parle de propos, concernant les propos qu'on a entendus tout à l'heure, à caractère complotiste. Est-ce que bientôt on va pouvoir faire condamner les chaînes, les médias ou des propos sur des réseaux sociaux pour leur caractère complotiste ?
En fait, je pense que théoriquement, ça pourrait être possible dans le cadre du droit existant. La question, c'est que l'ARCOM instruit les saisines au cas par cas et se pose la question de l'esprit de contradictoire plutôt que de la contradiction spécifique sur un propos qui est donné. C'est la difficulté à laquelle nous, on est confrontés. Par exemple, on a un cas qui concerne France Info sur lequel on s'est beaucoup penché, où le représentant de Trump en France était invité pendant les élections américaines et avait nié à 4 reprises l'existence du changement climatique et son origine humaine, sans contradiction sur le plateau. Et c'est posé la question de est-ce que c'était contraire à la lunatité de l'information ou pas ? Et la réponse qui a été apportée, c'est sur ce sujet, oui, mais l'esprit était un esprit de contradictoire dans l'interview, et donc France Info n'a pas été sanctionné.
Vous avez sorti d'ailleurs fin octobre une cartographie de la désinformation climatique dans les médias. Vous venez de nommer France Info. Qu'est-ce qu'il en ressort ?
Il en ressort que la désinformation climatique est en plein essor dans l'espace médiatique français. Quand on parle de désinformation climatique, on parle de propos qui sont faux ou au risque d'induire le public en erreur et qui n'ont pas été contredits par le ou la journaliste. Donc c'est important de parler de cette contradiction parce que s'il y avait contradiction, on ne considérerait pas que c'est de la désinformation puisque le public peut se faire une opinion éclairée de la situation. Et cette hausse, elle est constatée à des moments particuliers, ce n'est pas au long cours. C'est constaté au moment de l'élection de Trump. Donc on voit qu'il y a une influence de l'actualité internationale sur le débat français, au moment des politiques publiques françaises, donc par exemple au moment où il y a eu la discussion autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et puis au moment des canicules et des grands événements internationaux comme la COP.
Vous avez repéré 529 cas en 8 mois. Vous parlez aussi de 19 campagnes de désinformation. C'est quoi ces campagnes de désinformation ?
Ce sont des narratifs qui sont extrêmement récurrents. Donc on a, dans notre étude, considéré qu'à partir du moment où ils étaient cités plus que 8 fois en 8 mois, ça signifiait qu'il y avait un faisceau d'indices suffisamment fort pour considérer que ça venait de quelque part et que ce n'était pas juste une erreur ponctuelle de la part des personnes qui citaient ces propos. Et ensuite, pour certains d'entre eux, on allait tracer l'origine. Par exemple, on a retracé l'origine de certains narratifs au réseau Atlas, qui est financé aux États-Unis et qui est rattaché à l'industrie fossile. Et ces narratifs, ils visent à décrédibiliser surtout les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que c'est théoriquement censé les remplacer. Et ces campagnes de désinformation, on pense que c'est important d'en cibler l'origine pour dire c'est pas uniquement, pour nous, c'est pas uniquement les médias les responsables, pas du tout. Je veux dire, c'est les supports qui sont la cible ultime des campagnes de désinformation. À partir du moment où un narratif se retrouve normalisé dans l'espace médiatique, ça, y a un effet vu à la télé ou entendu à la radio qui fait qu'on y croit et que ça devient une vérité.
Vous qui scannez comme ça les médias, est-ce que vous arrivez à détecter, parce que ça doit être difficile de savoir, par exemple sur les plateaux de CNews, pour encore les citer, savoir ce qui relève d'une stratégie économique de gens qui sont peut-être liés à des lobbies qui veulent diffuser cette parole, ce doute au sujet du réchauffement climatique, ou des tactiques politiciennes. Vous arrivez à retracer ceux qui sont là pour de la politique et ceux qui sont là pour des raisons de gros sous ?
Il y a un peu des deux. Il y a plusieurs types d'acteurs qui désinforment. Ça a été catégorisé par un climatologue qui s'appelle Michael Mann, qui a dit que c'était la coalition des non-volontaires. Et donc, il cite l'industrie fossile, l'économie de l'attention, les ingérences étrangères et les groupes d'extrême droite. Mmh. Et récemment, il a rajouté les médias, puisqu'en fait, on est dans un système médiatique international qui est en pleine déliquescence, disons. En France, on le voit avec toutes les attaques au niveau de l'audiovisuel public. Mmh. Et donc, les médias peuvent devenir eux-mêmes non plus des vecteurs, mais des acteurs qui propagent sciemment des campagnes de désinformation.
Et vous, est-ce que vous la ressentez, cette désinformation climatique, quand vous regardez la télé, quand vous flânez sur les réseaux ? Quentin, qui nous a annoncé hier, je cite, que dès que Rachida Dati sera élue à la mairie de Paris, il revendrait son scooter électrique pour un bon gros T-Max. Est-allé vous poser la question. Il faut assumer ses choix et ses goûts en termes de mécanique, Quentin.
J'assume la vanne, mais j'ai bien acheté un scooter électrique. Je marche à pied dans le matin frais de Paris. Les nuages qui se confondent avec les toits en zinc donnent à la ville un aspect gris.
Bien sûr.
Une ville grise.
Magnifique.
Lui vient apporter un peu de soleil du sud de la France. De Pau, précisément. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel est votre prénom ?
Daniel.
Daniel, vous avez quel âge ?
60 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
60 ans, on est retraité. Moi, j'ai pris ma retraite à 60 ans.
Eh bien, vous avez bien fait.
Voilà, on me l'a donné et j'étais bien content. Et malheureusement, vous ne pourrez pas en faire de même.
Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil de me préciser, Daniel. Au cas où notre génération n'avait pas eu assez de bonnes nouvelles, ben, c'est toujours bon de le rappeler. Il découvre notre sujet du jour.
La désinformation climatique.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ça ?
Il y a plein d'éléments qui font que le monde il a changé ces dernières années, un truc de fou, quoi.
Vous informez comment ?
Par les médias, tout ça, mais je pense pas qu'ils en fassent des pataquès, quoi. C'est une réalité, on le voit à travers... moi, je viens des Pyrénées, il y a des glaciers, on avait dit qu'ils allaient mourir en 2050, et finalement, on a revu tout ça, et ils vont mourir en 2030, quoi.
Pour Daniel, il a le changement climatique, pas besoin de médias pour lui, il l'observe aussi dans la montagne, et c'est quelque chose qu'il partage avec son entourage.
Bon, mes enfants, ils en sont conscients de tout ça, ma fille aussi, on en parle, et moi, je dis toujours, moi, je vais fermer le portail de ma vie, et ça va aller, vous, ça va être un peu plus compliqué, hein.
Voilà, eh bien je sais pas pour vous, mais il m'a fait du bien, Daniel. J'étais un peu down cette semaine. Besoin d'un petit remontant ? Appelez Daniel. Ma deuxième rencontre, c'est Marianne, que j'attrape au vol.
Désinformation climatique. Je sais pas, je suis peut-être justement désinformée, mal informée, mais j'ai le sentiment que si on nous fournit énormément de plastique en amont, c'est pas le consommateur qui est responsable de ça.
Et je vous présente maintenant ce monsieur. Lui, il descend son SUV pour débrancher la prise à la borne de recharge, il est pressé, mais je lui précise bien que ça ne dure qu'une minute ce micro-trottoir. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Gilles.
Gilles, vous avez quel âge ?
63 ans depuis hier.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis financier.
Je lui demande à son avis pourquoi nous parlons de la...
désinformation climatique. Parce que je crois que le concept de réchauffement climatique est battu en brèche par beaucoup de gens qui ont intérêt à le faire. Et que donc, il y a de la désinformation qui circule à ce sujet.
Concrètement,
je pense qu'il y a des lobbies énergétiques qui ont tout intérêt à ce que les énergies fossiles continuent à être exploitées. Et d'un autre côté, on peut les comprendre aussi, parce qu'on est tous très confortables dans nos voitures. Donc, maintenant, il faut être aussi lucide.
Gilles, il est là, les cheveux grisonnants, avec son beau costume, sa doudoune matelassée en dessous, accoudé à son véhicule. Vous me montrez votre gros SUV, là ?
Non, c'est un petit. Il fait moins de 2 tonnes, justement. Et il est hybride rechargeable, donc stationnement gratuit à Paris. Ça fait exprès.
C'est bien de le préciser.
Non, mais je me situe simplement qu'il faut... accompagner le mouvement dans la durée. Il ne faut pas brusquer, les gens ont des habitudes. Si on les brusque, ils vont se dire pourquoi est-ce que les autres populations, les autres pays ne font pas les efforts alors que nous, on les fait. Il faut y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, chez moi, il fait moins de 19 degrés, par exemple.
vous faites gaffe à ça.
Oui, ça fait une minute.
Oui, c'est bon Gilles, vous pouvez y aller. Alors, comment les lobbies participent éventuellement à la désinformation climatique et dans un même temps, comment est-ce qu'on a réussi à faire pour rajouter un plaid sur le canapé de Gilou sans qu'il se caille un peu pour le déculpabiliser? Ma dernière rencontre, c'est ce jeune homme. Cheveux longs, sac à dos, qu'est-ce que lui inspire notre thème du jour?
Ce que ça m'inspire, c'est que les gens sont pas forcément bien informés. Ou tout simplement n'osent pas regarder par peur peut-être d'être confronté au réel, quoi. Donc chercher d'autres sources.
Par déni, quoi.
Par déni, ouais.
Tu t'appelles comment ?
Louis.
Louis, alors lui n'est visiblement pas dans le déni. Comment il s'informe ?
Alors, je vais essayer de m'informer sur des moyens de diffusion assez classiques qui vont être donnés à la fois par l'État et aussi par des associations qui sont vraiment sourcées avec des experts scientifiques. Je peux citer par exemple Jean-Marc Jancovici avec son cabinet de conseil Carbone 4.
Sacré Janco, dans le cœur des gens. Je lui demande si ça l'inquiète, ce qu'il voit, ce qu'il peut lire. Ça te stresse ?
Ouais, ça me travaille forcément. C'est sûr qu'en 150 ans, il y a eu 1,5 degré qui a été enregistré à peu près, quoi. Donc après l'ère industrielle, pré-industrielle, donc c'est sûr que ça travaille, quoi, quand on sait que c'est, si je dis pas de conneries, donc là ça peut être dans la désinformation peut-être. Il me semble qu'en 100 000 ans, on a pris 6 degrés. Là, c'est 1,5 degré en 150 ans, quoi, donc...
Ça a changé quelque chose dans ton comportement, dans ta façon de vivre ?
Tu
prenais encore l'avion ?
Voilà, non, je prends pas l'avion, j'ai pris 2 fois l'avion dans ma vie, mais c'est tout, quoi.
Et ça va en rester là, ou ?
Oui, je pense que ça en restait là, ouais.
Et finalement, en les écoutant tous, on comprend ce qui nous arrive, on avance sous une pluie d'informations en continu, le gouvernement qui alerte, les lobbies qui brouillent, les associations qui corrigent, les climato-sceptiques qui contestent, les fake news qui s'infiltrent partout. À force, on ne sait plus qui croire, ni même d'où vient la vérité, et c'est peut-être ça notre époque. Mylène Farmer avait raison, sauf qu'on est passé d'une génération désenchantée à une génération désinformée.
Petit twist final.
Sur Mylène.
Sur Mylène, ça passe toujours très bien.
Oui,
bravo,
oui.
Quentin.
Je vais sortir le remix, Quentin.
Eva Morel, ceux qui pratiquent la désinformation climatique, ils jouent sur quelque chose de, qui est en nous, en fait. C'est-à-dire peut-être le fait qu'on en a marre de cette actu anxiogène, on en a marre de vivre dans un moment où on nous dit qu'on va tous crever. Mmh. Et donc, ils jouent sur cette ficelle facile de l'âme humaine, qui est de se dire, les gens, ils ont envie d'entendre aussi un autre discours, genre, vous inquiétez pas, finalement, le réchauffement climatique, on n'est pas sûr. C'est facile de jouer là-dessus, finalement. C'est ça qui est pernicieux.
En fait, je pense qu'ils jouent sur les cordes sensibles de chacun. Et là, on parle de citoyens qui ne sont pas forcément experts de ces sujets. Donc, en effet, on joue sur des peurs, sur des émotions fortes. Un des principaux vecteurs de diffusion rapide de la fausse information, c'est le fait de ressentir des émotions vives qu'on a envie de partager rapidement à nos proches. Mmh. C'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Un autre exemple, c'est les négociateurs de la COP, où il y a eu beaucoup de désinformation aussi dans les salles de négociation.
Ah,
et ça a été souligné par les scientifiques.
Mais par qui ? Alors, celle-là, elle vient d'où dans les salles de négociation ?
Alors, dans les salles de négociation, toujours par les délégations des États, puisque c'est les seules personnes qui sont habilitées à parler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils jouent sur des choses qui sont, pour le coup, très techniques, puisque les personnes qui sont autour de la table ne se feraient pas duper par des choses de bas étage. Mmh. Mais par exemple, sur la notion de littérature grise inclue dans les rapports du GIEC, il y a eu tout un débat qui s'est passé dans une salle de négociation sur le fait que le GIEC ne prenait pas en compte cette littérature grise.
Donc, c'est quoi la littérature grise ?
Cette littérature qui n'est pas revue par les pairs, qui n'est pas publiée formellement. Et donc, ça voudrait dire qu'on discrimine les pays du Sud. Et donc, sur cette base-là, L'Arabie Saoudite a dit finalement le GIEC devrait être considéré comme une source parmi tant d'autres.
Donc relativisme.
Voilà. Et en fait, c'est faux. La littérature grise est bien prise en compte dans certains chapitres des rapports du GIEC, précisément pour que les pays du Sud soient introduits. Okay. Et donc selon cette mention qui n'a pas été contestée autour de la table, puisqu'en fait personne n'avait forcément l'information, ils ont supprimé une dimension du GIEC du texte science. Et ça, c'est un effet tangible de la désinformation climatique qui se destine aux décideurs. Et ça, c'est encore plus grave.
Quand Donald Trump, donc le président des États-Unis, dit que le changement climatique est la plus grande arnaque jamais menée contre le monde, quelles sont les conséquences qu'il y a derrière ?
En fait, ça normalise ses propos. Ça fait que ça devient autorisé dans l'espace public à les tenir. Ça libère la parole de certains acteurs qui ont un intérêt à les tenir, mais qui jusqu'à présent se bridaient parce qu'ils pensaient qu'ils seraient... que ça créerait un risque réputationnel à l'avoir. Et concrètement parlant, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Union européenne, au niveau des instances internationales, on voit cette parole qui se libère. Et c'est très préoccupant. Ces derniers jours, on a vu énormément de recul au niveau du pacte vert européen. Il y a des textes qui sont détricotés les uns après les autres. L'ambition française en termes de climat, elle est aussi complètement à la ramasse. Et au niveau de la COP, honnêtement, on a vu que le mot même d'énergie fossile a été retiré de l'accord, ce qui était une déception très forte pour tous les observateurs. Et c'est en partie la conséquence de ces discours.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Quand il s'agit de dénoncer les grands scandales de notre temps, Zoom Zoom Zen répond toujours présent. Je me souviens du frisson de danger qui avait parcouru notre échine lorsque nous avions commencé la saison dernière avec une émission sur les femmes à chat, afin de donner d'emblée une idée du courage éditorial qui serait désormais le nôtre. Que dire en outre de la cible que nous étions mis dans le dos avec notre émission coup de poing du 7 septembre 2023 sur la calvitie. Une fois de plus scandale. Cet après-midi, nous n'aurons pas la main qui tremble, sauf peut-être Manon, mais à cause du jean, ça n'a rien à voir. Au moment d'évoquer les pires déclarations climato-sceptiques de l'histoire récente, à noter qu'il n'y aura aucune question sur...
Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Une citation qui est comme les pires films à Cannes, hors compétition. Jouons au Zoom Zoom Test. Et on embarque tout d'abord à bord de l'Eurostar du plaisir informatiste, direction la perfide Albion. Où, par un froid matin de juin 1964, naquit un des plus grands climatologues contemporains, Alexander Boris de Pfeffel-Johnson, dit Boris Johnson, un homme, un vrai, qui n'a jamais eu peur de rien, ni du réchauffement climatique, ni du Covid, ni même du ridicule capillaire. En 2013, d'après vous, qu'a déclaré Bojo après une chute de neige sur Londres ? Je ne vous raconte pas la coupe quand j'ai enfin enlevé mon bonnet ? Nous devrions accorder plus d'attention au soleil, la température mondiale ne dépend pas des concentrations de CO2, mais de l'humeur de notre astre. Ou, bien sûr, parler de l'avènement d'un mini-âge glaciaire semble encore un peu absurde, mais cela paraît moins absurde qu'il y a 5 ans. C'est... Je regarde l'immensité enneigée dehors et je reste ouvert à toutes les possibilités.
C'est, du coup, ouais.
Mais je vous donne l'opportunité.
Les trois.
A et B.
Bon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui m'oblige à ne pas vous donner de points. C'était les réponses B.
Tout simplement.
B et C. C'est vrai que la C, on entendait presque Boris Johnson derrière. La B aussi, oui, rester ouvert à toutes les possibilités. Voilà la philosophie qui a toujours guidé Boris Johnson, selon lequel il ne faut pas écarter la possibilité que, contrairement à ce que racontent ces glandus du GIEC, on soit entré dans une nouvelle ère glaciaire. En même temps, il est là !
Le réchauffement climatique. Moins 3 degrés
On revient toujours à ça à un moment. Bon, les faits sont là, les faits sont têtus.
J'adore le « il est là !»
Et puisque nous sommes dans la catégorie leader charismatique capillairement audacieux, direction la Grande Amérique, avec celui qui bouffe des spécialistes du GIEC au petit-déjeuner avec de la sauce barbecue, Donald Trump, le président américain qui nous avertit depuis bien longtemps, non pas des dangers du dérèglement climatique, celui-ci n'existant pas, mais des ravages des énergies renouvelables. Ainsi, sans ce courageux lanceur d'alerte, nous ne saurions pas que les éoliennes tuent les oiseaux. Le bruit des éoliennes peut provoquer le cancer, Quentin. Ou les éoliennes sont des antennes espions des démocrates à la solde des Chinois, mangeurs d'enfants.
B.
Ouais, tout est
possible. Mais vous aviez dit qu'on ne parlera pas de Donald Trump.
B, ah oui, c'est vrai.
C'est un faux teasing.
J'ai dit qu'il n'était pas dans le top 3. Il va y avoir 5 questions. Donc,
oh là là, ça mérite un point moins.
Je vous ai tout fait raison, Quentin. Un point en moins pour vous. Insolence. Réflexion insolente. Un point en moins. Donc, vos réponses, on se décide.
J'ai dit A.
Moi, j'ai dit B.
Eh bien, c'était les réponses A et B. Oh.
Il va falloir qu'on dise que c'est des choix multiples.
A et B.
Est-ce que j'en peux plus, moi?
Écoutez, c'est la 670e émission. Quentin, je pense qu'il faut se réveiller.
On peut changer.
Réponse A et B. Foutues éoliennes. Non seulement elles découpent des oiseaux en tranches fines.
Non.
On aura une pensée pour
non,
Arek.
Non, arrêtez,
qui a certainement fini comme ça. C'est certainement ce qui s'est passé. Je l'ai vu, j'ai une vision.
Il est avec
j'ai
ses amis,
vision.
Les goélands.
Non, mais, oui, non, au paradis non. des goélands.
Mais, il volait.
Mais les éoliennes.
L'éolienne à droite.
Et non, elles filent en plus le cancer. La théorie des éoliennes cancérigènes est née en Australie sous l'influence d'un lobby d'énergie fossile, évidemment, et on la retrouve aujourd'hui dans la bouche de Donald Trump. Mais restons aux États-Unis et plus précisément en Alabama. Cet État, souvent cité dans les quiz sur les curiosités juridiques, puisqu'il interdit d'y conduire les yeux bandés, d'y porter une fausse moustache à l'église, et vous encourez même la peine de mort si vous mettez du sel sur une voie ferrée. Je vous présente Mo Brooks, sénateur républicain d'Alabama depuis 2010, et très célèbre pour sa théorie sur la montée des eaux. D'après vous, Manon, Quentin, selon ce sénateur, à quoi est vraiment dû l'élévation du niveau des océans?
Choix multiple.
Au volume grandissant occupé par les baleines, qui sont trop nombreuses depuis que leur chasse est interdite par les wokistes. Au paquebot de croisière, il suffit de voir ce qui se passe à Venise. Ou aux rochers qui se détachent des falaises pour tomber dans l'eau.
B et C.
Non, là, il n'y a qu'une seule réponse.
Vous dites ça. C'est alors.
Mais je vais vous dire, en fait, déjà, je dis ce que je veux.
Oui, voilà. C'est moins un point, non?
Pardon?
Non, pas moins un point, là.
Non, c'était pas suffisamment grave, Manon.
J'ai essayé.
Oui, vous avez essayé, alors vous dites
C.
C'est une bonne réponse de Manon Martelly. Oui. Je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer. Jetez un parpaing dans votre Icare et vous comprendrez la montée des eaux. Et pour terminer ce tour du monde du climato-scepticisme, direction le Brésil.
Vous ne m'accordez pas le bon point.
Vous me fatiguez, Quentin. Vous me fatiguez.
Et pourquoi on joue alors sinon?
Direction le Brésil. Non pas à la rencontre du poids lourd du climato-scepticisme, l'ex-président néo-tolar Jair Bolsonaro, mais de son ancien ministre des Affaires étrangères, le truculent Ernesto Araújo, qui a mis tout le monde d'accord sur cette pseudo-histoire de planète qui va dans le mur, car en fait, selon lui, tout ça, C'est un complot des marxistes culturels visant à étouffer les économies occidentales au profit de la croissance chinoise.
Je sais pas si je vais répondre.
On nous a injecté le virus de l'éco-anxiété en nous faisant croire qu'on nous vaccinait contre la Covid. Ou le GIEC sert en fait à blanchir l'argent de la drogue vendue par le cartel de Greta Thunberg.
Ah, il y en a plusieurs là, je pense.
Une seule réponse.
Ah bon ? B.
B, sans hésiter, Quentin, bravo. Manon ?
A.
Bonne réponse de Manon Marienne. Et oui, quand je pense qu'on a fait plus de 200 émissions sur le réchauffement climatique, alors qu'en fait, tout ça, c'était un coup des marxistes qui sont ressurgis à cette occasion. On est vraiment des pigeons, nous, les wokistes. Défaite du climat et victoire, on me dit de Quentin, mais comment va-t-on ? C'est possible. Vous vous insurgez maintenant, vous avez raison.
Mais non,
ça a été mal compté. Ça a été mal compté.
J'ai compté, c'est moi.
C'est une honte. Fake news.
Merci à tous. Merci.
Lutter contre la désinformation climatique en tapant au portefeuille. C'est la stratégie d'Eva Morel, cofondatrice et secrétaire générale de Cota Climat, une association qui œuvre pour un meilleur traitement médiatique des enjeux écologiques. Eva, on l'a dit, CNews a donc été le premier média à avoir été condamné pour désinformation climatique. Quels sont les autres médias dans votre viseur ? Parce qu'il faut être équitable et les citer tous, les enquêtes en cours, enfin les attaques en cours.
Je pense que le champion en France de la désinformation climatique, c'est même pas CNews, c'est Sud Radio.
Ah oui.
Il faut savoir qu'en termes de temps d'antenne, Sud Radio désinforme une fois sur le climat toutes les 40 minutes d'antenne consacrées au climat.
C'est régulier.
C'est très régulier, c'est très important. Et ils ont été deux fois mis en garde. On attend une mise en demeure sur un prochain cas. Et donc on pense que ce serait le deuxième média à être condamné pour désinformation climatique, en sachant que le nombre de saisines qu'on a fait sur Sud Radio est beaucoup plus important que sur CNews. Et je pense que c'est important de citer d'autres médias qui désinforment aussi régulièrement sur ces sujets, comme RMC ou Europe 1. Et ça ne surprendra personne vu l'actionnariat de ces médias.
Ouais. Évidemment. Vous avez assisté, on l'a dit, à la dernière COP qui s'est tenue à Belém, au Brésil. Une déclaration sur l'intégrité de l'information sur le changement climatique a été signée. Que contient cette déclaration ? Qu'est-ce qu'elle dit ?
Elle contient un certain nombre d'engagements de la part des parties prenantes signataires qui théoriquement ne sont pas uniquement des États, ça pourrait aussi être des organisations internationales ou des organisations de la société civile. Nous, on s'intéresse particulièrement aux engagements pris par les gouvernements et la première chose, c'est de mettre en place des outils légaux pour lutter contre la désinformation climatique. Il y a aussi une mention de l'amélioration du traitement médiatique des enjeux environnementaux pour que les médias jouent leur rôle de contre-pouvoir face à la désinformation climatique. Puisque vous l'avez mentionné plus tôt dans l'émission, ça circule aussi beaucoup en ligne. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait des garde-fous qui permettent de s'assurer qu'il y ait une information intègre qui circule quelque part. Et selon nous, les médias sont les meilleurs alliés dans ce combat. Et donc ça le mentionne et on est très heureux de ça.
Mais non.
Mais contrôler la désinformation sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même un peu mission impossible. Non, on parle des médias, mais les réseaux, vous l'avez dit, c'est quand même un vecteur aujourd'hui principal, un des vecteurs principaux de la désinformation sur le climat.
En fait, mission impossible à date, oui, parce qu'on n'est pas du tout dans une configuration géopolitique qui permet d'avoir un rapport de force avec les big tech. Mmh. En revanche, on a quand même une politique européenne qui s'appelle le DSA, Digital Services Act, qui a été votée il y a quelques années et qui permet de théoriquement encadrer les contenus en ligne. Et c'est ce qu'on essaie de faire appliquer sur les grandes plateformes. Je pense qu'il y a quand même une vague d'espoir là, qui commence à arriver puisqu'il y a beaucoup de contentieux qui sont lancés contre des plateformes. Et je pense que le débat autour de Chine, typiquement en France, et de la commercialisation de certains produits en ligne amène aussi un sursaut des gouvernements pour encadrer ces contenus. Mmh. Nous, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les politiques publiques ne soient pas une monnaie d'échange par rapport à des politiques commerciales et qu'on ne troque pas la régulation des contenus face à des accords commerciaux, par exemple.
Est-ce que les journalistes, qui doivent être quand même des vigies dans ce bordel ambiant, si on veut résumer les choses, est-ce qu'ils sont assez formés aujourd'hui ? Dans les écoles de journalisme, est-ce qu'on leur donne les outils sur les enjeux climatiques, les faits, les chiffres qui leur permettent d'opposer un invité, par exemple, qui dirait une connerie, de dégainer tout de suite un chiffre ou une contradiction ? Est-ce que ça, c'est pris en compte dans les écoles de journalisme aujourd'hui ?
Non. Voilà. Et c'est un vrai problème. Il y a une école de journalisme qui est vraiment exemplaire, c'est l'EAJ Lille, qui a mis en place un master climat média et qui forme beaucoup ses journalistes sur ces sujets. En revanche, dans le tronc commun de la formation des journalistes, ça il n'y a rien pas. Sur les questions environnementales. C'est plutôt en recul en termes de connaissance de ces sujets dans les écoles de journalisme. Nous, on le ressent quand on fait des interventions ponctuelles. Mmh. On voit qu'en fait, c'est vraiment plus trop un centre d'intérêt. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on commence à faire des formations à l'heure de la désinformation sur les fondamentaux, sur l'environnement, la science du climat au sens large, ou est-ce qu'on commence par la désinformation et les narratifs les plus exposés.
Là, et nous, pour pouvoir les détecter.
Voilà, exactement. Et donc, dans une perspective de riposte rapide et d'adaptation à ce phénomène, on pense que ce serait peut-être intéressant de commencer par les narratifs qui sont les plus fréquents.
Est-ce que ce ne serait pas le bon moment là, pour qu'il y ait un plan national contre la désinformation climatique ? J'ai vu que la Belgique allait en mettre en place un. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On est ravis de cette annonce. On travaille étroitement avec l'administration belge sur ce sujet.
Ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble d'abord à un observatoire de la désinformation climatique qui va être lancé avec l'administration belge courant 2026 et qui va permettre, comme ce qu'on a fait en France, mais endossé par l'administration de la Belgique, de produire de la donnée sur la désinformation climatique sur les médias pour commencer et ensuite sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le ministre belge du climat, Kruk, s'est engagé à mettre en place une législation adaptée, ce qui serait une première en Europe. Et donc, bien sûr, nous, on porte le même sujet au niveau de la France. Et ça a été annoncé par la délégation française à la COP. C'est une réflexion qui est actuellement menée par le ministère de la Transition écologique en France.
Vous écoutez France Inter avec toute cette désinformation climatique qui vous guette sur les radios privées. C'est un excellent choix. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Oui, un homme aujourd'hui. Je vous parle de Cyril Dion, 46 ans, devenu une figure centrale de l'écologie en France et surtout l'une des voix les plus présentes dans le débat public sur le climat. C'est en 2015 qu'il explose aux yeux du grand public avec son film documentaire Demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent. Il ne se contente pas de dresser l'état catastrophique du climat, mais montre des initiatives concrètes, l'agriculture durable, les énergies renouvelables, les monnaies locales. Le film devient un phénomène international, remporte le César du meilleur film documentaire et fait entrer l'écologie dans le débat grand public, non plus sous l'angle de la peur, mais celui du possible. Il en réalisera ensuite la suite, Après-demain, puis Animal en 2021, consacré à l'effondrement de la biodiversité à travers le regard de deux adolescents activistes. Dans un entretien récent aux médias Socialter, il explique qu'il ne s'agit plus de regarder les chiffres défiler, mais que chacun modifie ses choix quotidiens, réduire les trajets en voiture, privilégier les circuits courts, limiter la surconsommation numérique. Il critique également les grandes conférences, comme les COP ou la diplomatie environnementale, ils considèrent qu'elles parlent beaucoup mais ne remettent pas en cause nos modes de vie. Cyril Dion met en avant le fait qu'il ne faut pas culpabiliser les gens ordinaires mais les mettre en capacité de transformer leur quotidien. Mais cette prise de parole permanente sur le climat a un prix. Il a récemment fait l'objet d'une polémique après son passage dans l'émission C'est dans l'air. À quelques jours des 10 ans du 13 novembre, il a comparé le nombre de morts du terrorisme islamiste en France au nombre de morts liées à la pollution. On parle de centaines de personnes versus des millions de personnes. Il a conclu en posant cette question: qu'est-ce qui nous rend réellement en insécurité? Des propos qui ont évidemment choqué, certains y voyant une hiérarchie indécente de la souffrance humaine. Lui s'est défendu en expliquant qu'il voulait rappeler que l'urgence climatique tue déjà massivement, mais de façon silencieuse, invisible, et que nous réagissons souvent plus fort à ce qui nous frappe brutalement qu'à ce qui nous empoisonne assez lentement.
Merci Manon. Il est intéressant ce bad buzz autour de Cyril Dion qui depuis des années se bat pour l'environnement, contre le réchauffement climatique et qui l'a épinglé sur un truc. On imagine derrière quelles sont les personnes qui ont dû s'activer sur les réseaux pour monter ça en épingle. Est-ce que néanmoins, nous ici, j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Cyril Dion, mais est-ce que le travail qu'il mène peut avoir un impact, sachant que moi j'ai l'impression qu'il me parle à moi, il parle à des gens qui sont déjà convaincus. J'ai l'impression que quelqu'un qui vote Zemmour ou qui est fan de Trump, Cyril Dion, il ne va même pas écouter jusqu'au bout ce qu'il a à dire dans sa vidéo, même si c'est intéressant.
Personnellement, je pense que c'est une complémentarité des approches qu'il faut et que c'est pas parce qu'on parle à un cercle de convaincus que c'est inutile, parce qu'on a besoin constamment de se rappeler que c'est important de se mobiliser. Et pour être engagé depuis déjà plus de 10 ans sur ces sujets, on a souvent l'impression que ça sert à rien et c'est important de voir que d'autres sont en soutien et continuent d'avoir la foi. Donc déjà, je pense que c'est très utile. Et en plus de ça, avec ses films et son approche par la fiction, par la réalisation de films, il arrive à toucher des nouveaux publics pour le coup. Nous, on pense que l'information est aussi un très bon moyen de dépasser les silos et de toucher le grand public. Mais son approche, elle est vraiment aussi très utile. Donc je suis assez persuadée de son impact.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Si CNews a pris 20 000 euros d'amende pour désinformation climatique, combien prendra Pierre Courat, dit le globetrotteur fou? Un garçon qui, sur Instagram, se flatte encore en 2025 d'avoir visité plus de 60 pays. Si ça ne tenait qu'à moi, une sanction exemplaire se devrait être prononcée, comme par exemple 100 000 euros et surtout la confiscation du passeport. Pierre Courat, chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et la désinformation climatique aujourd'hui, une notion portée par notre invitée, la secrétaire générale de l'association Cota Climat, Eva Morel. Elle se bat pour un meilleur traitement médiatique des enjeux écologiques, un combat brûlant comme le climat et le Skims de Quentin Lui. Il commence tout juste à porter ses fruits, ce combat. CNews est le premier média au monde à avoir été condamné pour désinformation climatique. 20 000 euros d'amende infligée par l'ARCOM à la suite d'une séquence où un invité a affirmé que le dérèglement climatique était un mensonge, des propos qui n'ont pas provoqué de réaction sur le plateau. Il n'empêche que cette condamnation, validée par le Conseil d'État, fait aujourd'hui jurisprudence, comme nous l'a expliqué notre invité, qui estime néanmoins qu'il faut créer un système de responsabilisation des médias avec une augmentation des
amendes en cas de récidive. Il faut rappeler que le dérèglement climatique fait l'objet d'un consensus scientifique. Il est un fait sans équivoque et c'est justement pour ce manquement à la rigueur journalistique et à l'honnêteté de l'information que des médias sont aujourd'hui pointés du doigt. En 8 mois, l'association d'Eva Morel a recensé 529 cas de désinformation climatique qui sème le doute dans l'esprit des gens. Conséquence, une libération de la parole jusqu'au président des États-Unis, un recul global de la lutte contre le dérèglement climatique et des allers-retours hebdomadaires Paris-Nice, Paris-Vegas, en avion. Heureusement que Manon est là pour montrer l'exemple, elle qui ne gaspille plus d'eau, sauf accompagnée de Ricard depuis 1991.
Je réponds plus à ces attaques.
Ces attaques gratuites,
Laissez-les.
Vous, vous êtes trans, de toute façon.
Vraiment une bonne ambiance. Hein. C'est une ambiance de fin de saison, alors qu'on n'est même pas en décembre. Ça, vraiment, c'est inquiétant.
On est le 28 novembre, effectivement.
Il est pour nous tout à la fois un père, un mentor, un modèle, une figure d'autorité morale et, d'après Cyril, qui en a marre de se faire bêcher sur les thèmes qu'il choisit, une petite pute. Bonjour François Rollin.
Ah oui, d'accord.
Bonjour, bonjour, bien cher Mathieu. Alors, vendredi dernier, je vous ai traîné dans la boue en dénonçant la nullité de vos 5 sujets de la semaine. Vous avez protesté de votre innocence. Je ne vous ai pas cru, mais vérification faite, en effet. Vous n'aviez pas traité les sujets incriminés. Ah. Tout est de ma faute. Je ne m'étais pas branché sur France Inter pour vous écouter, mais sur Radio Nulos, qui émet sur une fréquence voisine de la vôtre. Alors autant pour moi, je m'excuse et n'en parlons plus.
Très bien.
Au demeurant, pour ne pas renouveler mon erreur, j'ai pris la sage décision cette semaine de ne pas vous écouter. Du tout. De toute façon, je n'avais pas besoin de vous écouter pour savoir que vos sujets étaient sans exception bien pourris et super barbants. À l'heure où vous êtes diffusé sur les autoradios, je voyais les gens s'endormir au volant de leur voiture et ceux qui ne dormaient pas semblaient avoir des haut-le-cœur comme s'ils avaient mangé du poisson pas frais. Mardi dernier, je ne sais pas ce que vous avez raconté, je ne sais pas quelle fadaise vous avez débité, mais sur le pont Mirabeau, les piétons qui vous écoutaient dans les écouteurs de leur smartphone se tapaient la tête contre le parapet quand ils ne se jetaient pas carrément à la Seine, qui, comme vous l'a signalé Apollinaire, coule sous le pont Mirabeau. Mais restons positifs, il faut que je continue de vous suggérer de vrais bons sujets, et à partir de là, disons-le, même si personne n'y croit vraiment, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Par exemple, vous avez tous en tête, à part Quentin qui n'a en tête que l'argent facile et les boîtes à part 12, vous avez tous en tête la justice de cette attaque. Vous avez tous en tête le chef-d'œuvre de Bruno Bettelheim, psychanalyse des contes de fées. Aujourd'hui, en 2025, les enfants n'écoutent plus guère les contes de fées. C'est pourquoi je vous propose, et Bettelheim aurait fait de même s'il était encore là, une psychanalyse de la patte patrouille. Comment ne pas discerner en effet la connotation sexuelle dans la phrase culte de Stella, prête pour un petit tour dans les airs ? Ainsi que, d'une manière un peu voilée, dans celle de Chase, Chase est sur le coup. Dans celle de Ruben, Ruben met toujours la gomme, comprenez le préservatif. Et dans celle de Marcus, je suis tout feu, tout flamme. Cette dernière phrase renvoie également à l'addiction aux drogues. Le joint, en l'occurrence pour Marcus, est nettement plus grave. La cocaïne pour Everest, qui répète à l'envi, la neige, c'est mon domaine. On notera au passage un éloge appuyé de l'activisme militant avec le slogan de Zuma « Prêt à plonger dans l'action » et celui de Rocky « Ne gaspille rien, recycle tout, comprenne qui voudra » comme disait Éluard et Pompidou. Paradoxalement, et c'est très préoccupant, Marcus, Ruben, Stella, Chase, Rocky, Zuma et leur chef de bande Ryder se positionnent du côté du bien. Sous-entendu, la luxure, la drogue et la violence, c'est bien. Et le reste du monde n'a plus d'autre terrain d'expression que le mal. À cet égard, nous nous interrogerons une prochaine fois sur le personnage de Monsieur Ellinger, maire de Foggy Bottom, capricieux, égoïste, paresseux et mégalomane, dans lequel certains exégètes pensent reconnaître la figure du juif éternel bouc émissaire. Fin de la psychanalyse pour aujourd'hui, vous me devez 300 euros. Chacun.
En cash, bien sûr, en plus. En cash. Ça, c'est Quentin, qui s'en occupe. Alors, merci François Rollin, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci beaucoup Eva Morel de nous avoir alerté sur cette pratique de la désinformation climatique qui s'infiltre dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association Cota Climat. C'est quelle prochaine procédure a la chance d'aboutir, a une chance d'aboutir bientôt?
Bah là, c'est news, hein, toujours.
Ah, toujours c'est news. Ah là là, ça c'est un sacré filon.
Zoom Zoom Zen.